Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous.
L'Église est le corps de Christ. Voici le sujet de notre discussion. Qu'avons-nous appris à ce sujet la dernière fois?
Nous avons réfléchi sur la nature de la relation qui existe entre Jésus-Christ et l'Église. Car si nous sommes le corps de Christ, lui en est la tête. Christ est le chef qui dirige et oriente l'Église. Comme le corps exécute les ordres qui s'élaborent au niveau de la tête, l'Église se soumet à Jésus-Christ et elle dépend de lui en toutes circonstances.
Merci. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir une dernière fois sur le sens de cette image, l'Église, corps de Christ.
C'est exact, Yann. Et cette fois-ci, nous allons nous appuyer sur ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre à l'église d'Éphèse, au chapitre 4, versets 12 à 16. Cédons la parole à Janine pour la lecture de ce texte.
C'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.
Merci. Aujourd'hui, à partir de ces versets, nous allons parler de la croissance de l'Église. L'image du corps est pertinente car dès sa conception, tout être humain commence un long processus de croissance jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Pour bien croître physiquement, il faut une bonne alimentation. Pour bien se développer sur le plan émotionnel et psychologique, de nombreux éléments entrent en jeu. Une bonne éducation, par exemple. Mais surtout, beaucoup d'amour et un environnement sain et sûr.
D'accord, mais que signifie le mot « croissance » lorsque l'on parle du corps de Christ? S'agit-il du nombre croissant de personnes s'ajoutant à l'Église?
Bien sûr, cette croissance-là est toujours souhaitable, mais ce n'est pas le sens du texte lu tout à l'heure. La croissance dont Paul parle est spirituelle. L'Église doit cheminer vers ce qu'il appelle l'âge adulte, autrement dit vers une maturité spirituelle. Cette maturité consiste, selon Paul, en plusieurs éléments.
Et quels sont-ils?
En voici une liste. Désirer approfondir sa connaissance de Christ et avoir soif de lui ressembler toujours davantage. Rechercher l'unité des croyants. Aspirer à une sagesse grandissante pour discerner le bien du mal, pour reconnaître une doctrine bien fondée à une qui ne l'est pas.
Et il est intéressant de noter que Paul parle de la croissance de l'Église et non pas de l'individu.
C'est vrai, Yann. Nous pouvons dire que, d'une certaine manière, la croissance de l'Église dépend de la croissance de chaque individu en son sein. Cependant, il est important de souligner cet aspect communautaire. Nous sommes appelés à grandir ensemble. Tout comme le corps humain grandit de façon équilibrée et non pas de façon disproportionnée. En soulignant cet aspect communautaire, Paul change notre regard sur la croissance. Trop souvent, nous nous préoccupons surtout de notre propre croissance individuelle et nous ne pensons pas forcément aux autres. Si toutefois nous avons cette vision d'une croissance communautaire, nous réfléchirons à notre façon de contribuer à la croissance de nos frères et sœurs, par nos paroles, nos actes de service et l'amour fraternel.
Et comment croissons-nous en tant que corps de Christ ?
D'abord, Jésus donne à l'Église des personnes aptes à l'enseigner. Au début du texte lu, il est question d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Tous ces rôles consistent à transmettre le message biblique en vue d'accomplir les objectifs mentionnés tout à l'heure, à savoir la connaissance de Jésus-Christ, l'unité et l'harmonie et le discernement. Jésus est la tête du corps. Il est celui qui oriente et dirige son corps. Il est celui qui parle, car comme le déclare l'apôtre Jean, il est la parole de Dieu. Dans le corps humain, la tête ou le cerveau maîtrise et pilote le corps par l'intermédiaire du système nerveux. Oserais-je dire que ceux qui ont le don d'enseigner sont presque le système nerveux du corps de Christ ? Ces personnes ont d'abord la responsabilité de comprendre la parole de Dieu et de discerner la volonté de Christ, la tête. Ensuite, ils ont la responsabilité de communiquer cet enseignement au corps en vue de contribuer à sa croissance. Notons aussi que ces enseignants que Christ donne à l'Église doivent agir en serviteurs. Il convient d'enseigner la parole de Christ avec humilité, au lieu de prendre un air autoritaire et tyrannique. Ensuite, ces enseignants jouent un rôle formateur. Comme l'explique l'apôtre, leur but est, je cite, « pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ ».
Ainsi, ce n'est pas au pasteur de tout faire dans l'Église.
Non, pas du tout. Le rôle du pasteur enseignant est de former les uns et les autres pour contribuer à la croissance de l'Église. Tout pasteur ou responsable qui cherche à tout faire dans l'Église et qui prive les autres d'y jouer un rôle risque d'empêcher la croissance du corps de Christ. S'accaparer de toutes les tâches à accomplir peut révéler une attitude malsaine et orgueilleuse. De même, une église composée uniquement de membres passifs, attendant que le pasteur fasse tout, se comporterait également avec égoïsme. De telles églises ne peuvent pas vivre une véritable croissance. Tous doivent participer, chacun à sa manière, à la vie de l'église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais chacun peut servir le bien de tous et contribuer à l'édification du corps de Christ.
Merci de souligner ainsi l'importance de tous. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes plus heureux en communauté. Nous pouvons recevoir de nos frères et sœurs, mais il est aussi important de donner, de faire du bien. Alain, nous approchons la fin de notre temps ensemble. Comment voulez-vous conclure cette discussion ?
En rappelant l'importance de l'amour dans le contexte de la croissance de l'Église. Paul écrit non seulement que nous avons besoin de la vérité, mais il insiste sur le fait qu'il faut annoncer ou enseigner cette vérité avec amour. Certains prédicateurs peuvent prendre un ton hargneux et sévère. Et lors de nos conversations les uns avec les autres, nous avons tendance à trop facilement critiquer, condamner et juger. Nous manquons de douceur et de patience. La vérité produit les fruits de la croissance lorsqu'elle est annoncée dans une communauté où l'amour fraternel est sincèrement vécu. Tout comme le sang circule dans le corps humain pour y apporter l'oxygène qui le maintient en vie, l'amour fraternel doit caractériser nos relations au sein de l'Église afin qu'elle soit vivante, un lieu d'accueil, un abri sûr et un environnement sécurisant. L'amour fraternel est essentiel à la croissance.
Merci Alain. C'est ainsi que nous terminons nos discussions sur l'Église en tant que corps de Christ. Il existe bien d'autres illustrations de l'Église dans le Nouveau Testament, mais nous les aborderons lors d'une série future. En attendant, Alain, nous vous remercions pour votre participation à nos émissions.
Merci Yann, c'est une joie pour moi et un privilège. Que tous nos amis auditeurs puissent jouir des bénédictions qui découlent de la vie de leur église locale. Alors je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.
Merci Alain et à bientôt. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean et nous revenons sur le texte difficile qui se trouve au chapitre 3, des versets 4 à 9. Sandra nous lira ces versets et ensuite Claude nous fera part de ses commentaires.
Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas, et celui qui pèche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu.
Bonjour à tous. Nous revenons sur ces versets qui peuvent troubler certains croyants. Pourquoi ? Parce que Jean semble suggérer que le chrétien authentique ne commettra plus jamais de péché, alors que notre expérience suggère que cela relève de l'impossible. Car ne sommes-nous pas en lutte constante avec le péché ? La dernière fois, nous avons parlé du contexte dans lequel ces paroles de l'épître de Jean ont été prononcées. Nous avons appris que l'apôtre visait essentiellement des faux enseignants qui affirmaient que puisque notre âme est sauvée, nous pouvons faire ce que nous voulons, jusqu'à commettre le péché. Aujourd'hui, je voudrais également relever le fait que l'apôtre vise surtout les personnes qui s'adonnent au péché. Que veut dire s'adonner au péché dans ce contexte ? S'adonner au péché, c'est délibérément continuer à commettre des fautes, à pratiquer un vice, sans remords, sans le regretter, sans reconnaître le mal, sans s'en repentir, sans rien faire pour s'arrêter. De telles personnes, selon Jean, ne connaissent pas Dieu, même si elles affirment le contraire. Elles demeurent sous la domination de Satan et restent aveugles à la gravité de leur situation. Il reste à espérer que les paroles percutantes de Jean les réveillent. Le chrétien sait que le péché réside encore en lui et il peut malheureusement vivre de nombreuses chutes morales et spirituelles. Cependant, le chrétien authentique reconnaîtra le mal qu'il a commis et il le regrettera profondément. Il s'en repentira et avec l'aide de l'Esprit, il mènera un combat contre le péché dans son cœur, car il a soif de poursuivre la sainteté. Si tel est votre cas, soyez rassurés. Christ vous donne la vraie vie et il agit en vous pour vous libérer du mal et de la domination du diable.
Merci Claude de nous avoir si bien éclairés sur ces versets difficiles. Nos deux séries, l'une sur l'Église et l'autre sur l'Épître de Jean, s'arrêtent là pour le moment, mais nous les reprendrons dans l'avenir. Nous remercions encore Alain et Claude pour leur participation enrichissante. Chers amis, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.